Tu vas écrire un livre?
T'adore.
Ah mais t'es une tête alors.
Mais en fait, c'est quoi une thèse exactement?
Ça c'est facile.
Tu cherches quoi?
La sociologie, moi aussi j'en fais entre deux bières.
Et tu trouves?
Bah, questa tesi la scrivi in italiano.
Un doctorat en droit.
Et sinon, tu travailles sur
mais
quoi?
Mais pourquoi on dit sciences sociales si vous faites pas d'expérience?
Et la recherche en art, ça existe?
Maradona au Pelé.
Sociologues, artistes, politistes, anthropologues, juristes, architectes et chimistes ont échangé pendant une semaine dans l'atelier Studio Euphonia. De la fraude à la vulgarisation scientifique, ils ont évoqué les enjeux de la communication de la recherche et l'éthique du chercheur dans le cadre d'une formation doctorale proposée par l'Université Aix-Marseille. C'est de leurs collusions et différences, de leurs oppositions et connivences qu'est née cette émission.
Bonjour, nous sommes Luigia et Romain, respectivement anthropologues de la musique et juristes, doctorants tous les deux. Et nous nous sommes rencontrés autour des questions de oralité, de rhétorique, plus précisément des mises en voix et des paroles.
This is Radio Caroline on 199.
We have triumph.
On avait derrière le bar. En fait, là où il y a un portail et tout ça, il y avait le bar, et il y avait rien dedans.
Cet épouvantage, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se remrouillent. Aïe la vache, pousse-toi.
Je vais prendre la parole. Je ne peux pas. Il faut. C'est notre dernier espoir.
Un tribunal, une école, une rue, un café, autant d'espaces investis par les architectes mais aussi par la voix publique. Qu'est-ce qui se dit dans ces lieux? Qui parle et comment et à qui? L'espace est en effet aussi le lieu du discours, il est construit par le discours, ou plutôt par différents discours. Voici un premier exemple de l'un d'entre eux, celui de Maître Vergès.
Je ne suis pas contre l'amnistie, messieurs. Je suis pour l'égalité. Je suis pour l'amnistie à condition qu'on renonce à l'imprescriptibilité. Je suis pour l'imprescriptibilité à condition qu'on renonce à l'amnistie. Mais on ne peut pas tenir ce double langage. À Nuremberg, nous dit-on, c'est l'humanité qui se présentait en accusatrice, singulière humanité à tout le moins, humanité qui regroupait les seuls vainqueurs, mais pas tous les vainqueurs, puisque les peuples coloniaux s'en trouvaient exclus, quand ils y avaient deux fois leur place, comme héros et comme victimes. Héros du combat libérateur et victimes des massacres qui prolongeaient la guerre. Pour parler au nom de l'humanité, il faut pour le moins être son émanation véridique et vérifiable, pouvoir parler au nom de tout homme et de tout l'homme. Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger. Disait déjà Terence, cet ancien esclave de Rome, né dans cette Afrique du Nord dont nous parlons, à Carthage précisément. Comment peut-on se présenter comme mandataire de l'humanité sans la majorité des hommes qui la constituent? Intellectuellement, cette contradiction ne se surmonte pas. Cela signifie qu'en morale, elle se trouve présente dans ce prétoire, qu'elle plane sur ce procès depuis la première audience, et qu'elle veille dans l'esprit de chacun d'entre nous. C'est pour cette raison, je pense, que la présence à cette barre, au cours de ce procès symbole, de cette défense symbolique, s'imposer. Et maintenant, avec votre accord, Monsieur le Président, je souhaiterais, sur ce problème qui est le problème capital de notre temps,
voici donc Maître Vergès et je remercie Romain de me l'avoir fait découvrir parce que pour moi c'est très intéressant en fait de lui proposer, de vous proposer une lecture pragmatique un peu de ce discours selon une approche qui est celui de l'analyse en fait d'un fait musical aussi, parce que la langue, c'est ça aussi. Et en fait, Maître Vergès, il utilise à la fois des procédés stylistiques, sonores, c'est verbal, mais en même temps, c'est musical. Et c'est là se place dans un contexte qui est à la fois solennel aussi, très formel comme un tribunal, mais qu'il est investi par la voix de Maître Vergès. Donc il amène vraiment cette dimension biographique aussi de lui, en jouant sur le passage du « nous » quand il s'adresse en fait à l'auditoire, et le « je » quand il parle en première personne. Ce sont autant aussi des variations de rythme, des vitesses, quand il ralentit et puis il reprend le débit de son discours en percutant avec ses mots l'auditoire. Et il s'interdit pas non plus des petites erreurs comme ça dans la prononciation, en fait, parfois des cacophonies dans la langue, des répétitions aussi croisées, la violence symbolique, le discours symbolique, le symbole de ses discours. Parfois ça se mêle, la langue, comme je peux peut-être me... le faire moi-même aussi à la radio aujourd'hui, mais tout ça, ça fait partie vraiment de sa présence dans ces moments assez particuliers où, en fait, il chemine sa pensée, il déploie sa personnalité aussi et il construit en même temps cette figure, en fait, d'orateur face à un public et sa signature aussi personnelle en tant que... Vergès lui-même, sa position engagée, je dirais, cette présence un peu engagée à travers la parole. Qu'est-ce que tu en penses? Je te fais écouter mon extrait, comme ça tu vas voir côté slam, en fait. Il s'agit d'un enregistrement de terrain que j'ai réalisé à Paris il y a quelques années, et c'est une petite scène de slameurs.
Son nom de Cain, il fut un cas. Il fut un cas. Ils furent trois cas. Ku, Klux, Klan. Le destin charroi ses lignées alignées. Ainsi des abysses ressurgit Jim. La lignée du souvenir retrouvé. La sortie de l'histoire enfouie. Historien noir de mon histoire noire, je noircis les pages blanches. Remixant, métissant, médisant, créolisant, zan. Noir le zan. Zan vocal. Vent vocal en vocal et il décale dans la cale. Microcosmant cette cosmique comédie, tragédie, comme ils disent, come in. C'est pas moi qui écris, j'ai mon blanc, mais sans cipex. Car je travaille sur le cortex de mes textes, complexe et perplexe, avec la minutie d'une Rolex et la simplicité d'un Solex. Merci.
Oui, alors moi je trouve personnellement que c'est un passage extrêmement intéressant à analyser pour un juriste, parce qu'il nous fait comprendre la chose suivante. Les avocats n'ont rien inventé. Voilà, c'est-à-dire que toute la rhétorique du juriste, tout le rythme, tout le souffle qu'on peut trouver dans une plaidoirie, en fait, il se trouve dans la musique, il se trouve dans la poésie, il se trouve déjà chez Homère, il se trouve aujourd'hui chez les rappeurs, il se trouve chez les slameurs, chez ce genre de personnes. C'est-à-dire, l'objectif du slameur, c'est de faire passer finalement une émotion et des images. Comme dans la parole d'un plaideur. Et pour ce faire, effectivement, il va utiliser tout un tas de styles, enfin de procédés rhétoriques, alors des jeux de mots, des métaphores, un ton grave, relativement sentencieux, mais parfois qui devient presque comique, des inversions, des rimes, un souffle, un rythme qui change beaucoup, qui varie énormément, parfois de façon assez brusque, de façon très baroque, avec une profusion de mots, d'images qui passent l'une à l'autre, ce qui crée une certaine tension, une certaine nervosité, mais une certaine colère aussi, une colère contrôlée, hein, un peu comme on peut la...
Maître Vergès aussi.
Exactement, comme on la retrouve finalement au tribunal, c'est-à-dire une colère éloquente. Hein, qui sert vraiment à faire passer, que ce soit donc au tribunal ou là dans la chanson, une émotion, des idées, des valeurs, voilà, c'est vraiment l'éloquence, oui, au service de...
Susciter aussi une certaine indignation dans l'auditoire, parfois.
Tout à fait. Donc l'ensemble est vraiment comparable, aussi bien par les procédés rhétoriques je dirais, dans la dimension, comment dire, plus ontologique de la parole, c'est-à-dire le fait qu'elle, dans les deux cas, serve à traduire des émotions qui sont différentes, voilà, dans des contextes qui sont sérieux, sentencieux ou pas, mais à chaque fois qui est le soutien nécessaire d'un message émotionnel et qui, du coup, finalement, utilise des méthodes, des images qui sont assez semblables. C'est ça qui est assez remarquable, finalement, à travers la comparaison de ces deux extraits.
J'ai un extrait surprise. Tu veux qu'on l'écoute ?
Avec plaisir.
On n'entendait plus que la voix de Hinkel.
Hey, das Strafnitz, hilfen Sie! Der Wiener Schnitzel in der Lage werden und das Saukraut! Hey, der Filmten sagt der Filmten! Ein Tomenier wie ein Strap! Ein der Blitzen sagt der Klütz! Hey, die Fleiner Strap! Mit der Ach!
Et voilà, c'était Charlie Chaplin, le discours, en fait, du grand dictateur, où il met en scène vraiment la parole dans toute sa dimension musicale. Donc, au-delà du sens qu'on peut percevoir de son discours, c'est vraiment l'aspect sonore auquel on accroche, et puis cet effet...
Oui, et puis en même temps, le côté un peu parodique, puisque finalement, je viens faire un petit peu le résumé des deux extraits qu'on a pu écouter, hein, la référence à Maître Vergès dans Le procès Barbie, et en même temps, le côté un petit peu, comment dire, plus divertissant, qui est apporté par l'autre extrait, et qui explique à travers la fusion qu'il permet un petit peu, voilà, ce que ça permet de dire du discours en général, quoi.
Et maintenant, de la voix à l'espace, une conversation perchée entre Gabriele, architecte, et Marc, juriste. Merci beaucoup.
Merci.
Viens, on va par là. C'est quand qu'un espace te frappe pour sa beauté, au contraire.
On voit un peu à l'idée de l'art, finalement, de ce que peut être le goût. Je te dirais que c'est une expérience qui est d'abord intime. On est dans le plus profond de l'intimité humaine et dans ce qu'elle a de solitaire, au sens de l'irréductibilité de la solitude. Et... disons que je pense que la lecture d'Heidegger m'a beaucoup aidé là-dessus. Quelque part, c'est quand il y a une forme de fulgurance dans le rapport à la chose que tu trouves belle, que tu es particulièrement connecté avec le monde qui t'entoure. Arendt est aussi sur cette film. En même temps, c'est une élève d'Heidegger, puisqu'elle pense que ce monde qui nous préexiste, l'éducation doit nous aider à être... dans sa continuité, à pouvoir aussi le prolonger, à pouvoir s'y intégrer. Et je crois que les espaces, quand ils sont beaux, ils signifient quelque chose et nous permettent d'être plus particulièrement au monde. C'est comme ça que je le définirais, mais j'imagine que toi, en tant qu'architecte, dont c'est réellement le métier, tu dois avoir une définition beaucoup plus claire, beaucoup plus incarnée de ce que peut être beau.
Oui, certes... Je me suis créé mon goût, mais au final, moi, quand je regarde un espace et un immeuble, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre s'il y a une intelligence constructive, dans le sens que même un hangar à foin, je le trouve très beau, dans le sens où il est pensé pour créer un abri par le vent du nord. Tant qu'aujourd'hui, en fait, surtout mon milieu, les architectes, ils sont beaucoup frappés par l'objet, par la sculpture. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais...
Bien sûr, oui. Tout à fait.
Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce côté exceptionnel, en fait, du bâtiment?
Ce que je remarque dans ma discipline, c'est que l'exceptionnel est lié aussi à ce que l'on veut signifier par son utilisation. Le bâtiment, et ça, historiquement, le bâtiment est utilisé pour manifester au monde la culture qui s'exprime dans ce lieu, pour manifester au monde le pouvoir, les enjeux de pouvoir qui s'expriment dans ce lieu. Par exemple, l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon à Paris, tu remarqueras, alors c'est une espèce de pastiches de temples grecs.
Ah ouais, oui.
Et donc avec des colonnades, un fronton, des fresques.
C'était la forme de la démocratie par excellence, non?
Exactement, oui.
Aussi aux États-Unis, où c'est les précurseurs de tout ça.
Et comment ne pas, ouais, effectivement, revoir cette architecture à la lumière des idées qu'on a voulu ressusciter, qu'on a voulu remettre au goût du jour. Bon, je crois que la construction s'est terminée sous l'empereur Napoléon Ier. L'empereur, comment ne pas voir là aussi la référence à tout l'héritage gréco-romain. D'ailleurs, c'est un hémicycle, c'est un amphithéâtre à l'intérieur du Palais Bourbon où s'exprime la volonté nationale, où se votent les lois.
Mais après, l'institution, elle nous parle surtout par cette symbole, non? Tu as dit que oui, le temple grec, le classique, c'est la forme de la démocratie, mais en même temps, c'est la forme de la dictature.
Aussi.
Je pense à Nuremberg, à tous les bâtiments, les pires bâtiments fascistes. Je dis les pires parce qu'il y en a eu quand même des intéressants. Le classique et le symbole, tu peux le prendre un peu de tous les côtés. En tout cas, oui, l'espace de l'institution, au moins, il y a eu un temps où c'était un espace monumental. Mm. Moi, avant, j'habitais à Rome, et là, il y a la cour de cassation qu'à Rome, on appelle le palazzaccio. Palazzo, en italien, c'est le palais. Mm. Palazzaccio, c'est vraiment pour dire le pire palais de la Terre. Et c'est ça, parce que c'est un immense monument. Là aussi, tout décoré avec des statues de juristes, de Cicéron qui sont mis de partout. Et moi, j'ai ce souvenir affreux de quand je devais me diriger d'un point à l'autre de la ville, je tombais sur cet obstacle. Donc l'institution, c'était un obstacle parce que c'était un bâtiment qui faisait des centaines de mètres, et en plus avec des bandes de sécurité pour protéger cette figure inaccessible. Et c'est un bâtiment, je suis rentré une fois, qui manquait de lumière, mais d'une manière étonnante.
Mais tu sais, je crois que c'est lié aussi à une conception qui est une conception du droit qui est liée finalement aux lumières et au temps, toutes les périodes qui vont suivre. Considère le droit comme étant un écosystème indépendant, vivant dans un monde métaphysique, le monde des idées. D'où l'intérêt, quelque part, de marquer la différence entre le monde profane de tous les jours et cette espèce de sacralité fantasmée du droit dans sa pureté. Et finalement, et c'est là que je te rejoins, c'est vrai, on se demande à la fin si on n'arrive pas à une séparation artificielle et contre-productive d'avec le vrai monde. Ce qu'on n'a pas, par exemple, avec le bâtiment de l'ONU dont tu m'avais parlé la fois dernière, on est dans un autre rapport à l'architecture.
Bah oui, celui-là, c'est la pureté, non? C'est pour ça que je te disais, à une époque, on a eu presque le besoin de rendre visible l'institution avec la pierre, non? Avec
oui,
le manque
vrai.
De lumière, non? Un peu comme les... Aussi, il y a certaines églises, à certaines époques, qui sont peu comme ça, enfermées. Et l'ONU, non, ils ont voulu faire dans les années 50 cette prisme vitrée transparente. Et en fait, c'est transparent, mais en même temps, ça reflète.
C'est le symbole de la transparence des affaires qui s'y dérouleraient. Et puis aussi, il y a dans cette espèce de... Tu m'en avais parlé, de recherche de la géométrie pure, de la forme pure, une forme de recherche, en fait, de l'unité du genre humain, qui était sous-jacente, et qui montre bien que l'architecte avait parfaitement assimilé les enjeux de la construction, non seulement du bâtiment, mais de l'ONU derrière. Quelque chose de transparent, quelque chose d'unifiant.
Oui, c'est une forme qui, à l'époque, était un symbole collectif, en fait. La forme pure, c'est le mouvement moderne. C'est tout un mouvement architectural qui s'est fondé sur la géométrie, sur la légèreté et aussi sur l'homologation, parce que ça a vite fait devenu un style international.
Oui, c'est international, oui.
Et que, du coup, on voit cette prisme vitrée un peu partout, au Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France. Et c'est marrant, je ne t'ai pas dit, mais l'architecte qui a dessiné l'ONU à New York, c'est le même qui a dessiné le siège du Parti communiste ici à Paris, à Colonel Fabien.
Ah,
c'est un décor un peu science-fiction, on dirait.
D'accord,
film,
oui.
Alphaville.
Une espèce de futurisme. C'est intéressant, alors que, à contrario,
Voyage.
A contrario, on a quelque chose de l'obscurité, quelque chose de du poids, des intérêts de chaque État qui se joue à l'ONU. Finalement, c'est comme si tous les idéaux exprimés par l'architecture étaient en fait contredits par la pratique. Et c'est assez désespérant. Mais peut-être que finalement, ce que montre l'architecture dans cette légèreté, s'étendue vers le ciel, c'est transparent, c'est peut-être un rappel constant à ceux qui vont y parler, un rappel constant des objectifs de cette institution. Je sais pas ce que tu en penses. Et d'ailleurs, est-ce que vous, architecte, vous intégrez ces idéologies, ces objectifs, ces grandes idées quand vous construisez des bâtiments pour des institutions ?
J'ai pas encore eu l'occasion de me sentir un pilier de la société à tel point. Moi, je peux te dire, quand je travaille sur l'espace public, que pour moi, c'est un peu ça aujourd'hui, l'institution. Je vois les bâtiments les plus représentatifs, les plus monumentaux aujourd'hui, c'est plutôt porteur de symboles privés, individuels. D'accord. C'est des centres commerciaux, c'est des tours pour des armateurs, des gens qui ont fait la fortune. C'est la Trump Tower. Oui, c'est plutôt le symbole d'une réussite. Et même dans les formes, on voit que c'est des objets un peu comme ça. Par contre, je vois dans l'espace public un peu la possibilité d'effectivement de recréer une institution qui soit un peu plus à la portée d'un objectif peut-être moins d'élite. Mais que dans sa désacralisation aujourd'hui, elle me frappe. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah écoute, j'abonde dans ton sens. Moi, j'ai fait mes études à Nice, dans une faculté qui date des années 60, tout à la fois un petit joyau et tout à la fois quelque chose de architecturalement très triste. Ça se présente comme un énorme bâtiment sans âme. Aux couleurs pourtant, en résonance profonde avec la Côte d'Azur, qui est sur une petite colline en plus, donc qui donne sur la mer bleue, souvent calme, on est en Méditerranée.
Voilà, tu vois, donc la tristesse en fait de ces formes, là, tu me l'as montré hier en photo, mais elle ne deviendrait pas noble par quelque chose de beaucoup moins spectaculaire. Non, et qui en fait c'est le lieu, non ? Tu me disais que tu regardais la mer pendant que
Oui, mais est-ce que... Alors, pour aller dans ton sens, Chagall a commis une magnifique fresque sur le voyage d'Ulysse, qui retrace toute la vie d'Ulysse. Et il l'a fait, d'ailleurs ça a été abondamment commenté par le doyen Trotabas, il l'a fait quelque part pour que chacun des étudiants puisse penser comme un Ulysse. Comme un intellectuel pérégrinant à travers le monde à la recherche du juste quelque part. Il y a quelque chose dans cette faculté qui pousse à la mer, qui pousse au voyage, qui pousse à la formation de soi-même. Mais ce que je regrette, c'est que nous, en tant que juristes, on envisage l'amphithéâtre où les cours de droit sont prodigués comme un espace sacré où la parole, la volonté générale quelque part est enseignée, transmise aux futurs juristes qui en seront les gardiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'en principe les professeurs ont des tenues inspirées de la liturgie qui viennent du Moyen-Âge d'ailleurs, avec le rouge de l'Imperium romain. Et j'ai peur quelque part que cette architecture assez appauvrie, quoique dans un cadre extraordinaire, exceptionnel, hein, mais que cette architecture appauvrie desserve le message qui est transmis. Ce qui m'envoie d'ailleurs sur une question que j'aimerais te poser. Est-ce que pour toi aujourd'hui, les grands mouvements architecturaux permettent encore de signifier à la communauté, à la collectivité qui reçoivent ces bâtiments, l'enjeu de l'institution qu'elles abritent ? Est-ce que pour toi, on n'est pas dans une forme de désacralisation d'abandon de l'exceptionnel qui va arriver sur une banalisation de tous les bâtiments.
Non, je vois pas ça comme ça. Je pense plutôt que le côté normal. En fait, le côté bien fait, ça doit être un objectif. Que toute dépense d'énergie dans le symbole et dans l'image, ça tombe un peu dans la... dans le côté auto-référentiel de l'architecte, et que plutôt je pense qu'aujourd'hui la ville elle a besoin de retrouver une normalité qui soit l'esprit d'une pensée collective. C'est ça que moi je ne vois pas aujourd'hui dans la ville, dans le paysage, dans le territoire, non. D'accord. Quand tu dis déjà la vue sur la mer, ou encore la couleur d'une enduit qui vient de là, ou une placette, ou un banc. Je vois plutôt dans cette normalité, moi, l'avenir.
Tu vois l'avenir dans la normalité.
Oui.
Et pour finir, peut-être avant qu'on se sépare, est-ce que tu trouves que le droit t'empêche d'exprimer tes grandes idées architecturales? Ou est-ce qu'il te permet de le faire?
Le droit, aujourd'hui, il normalise. Mais je pense pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il impose des choix qui sont partout les mêmes. Dans l'espace public, notamment, tu peux plus planter des arbres si tu t'en tiens pas compte des angles visuels des caméras de surveillance, si tu discutes pas avec la police, si tu ne discutes pas avec des services et des gestionnaires qui n'ont pas de compétences, en fait, pour définir la graine d'un espace. Et donc, le travail d'un architecte, d'un paysagiste, il devient un peu celui-là d'un technicien, lui aussi, qu'il prend ses contraintes qui sont valables partout et il doit faire avec ses ingrédients.
Construire et arpenter la ville, c'est donc aussi habiter une certaine forme de contrainte. Quelle contrainte pour le chercheur, habité par son sujet et sa manière singulière d'être au monde?
Chercheur militant, chercheur expert, artiste chercheur ou chercheur tout court. Comment se présenter dès lors que l'on est jeune chercheur? Difficile de trouver sa place parmi ces différentes postures et parmi les rapports de force que leur énonciation sous-tend. Les chroniques qui vont suivre se proposent ainsi d'examiner certaines facettes de cette identité multiple.
Parlons un peu d'image, d'image mentale et de projection. Quoi de mieux que le son d'une voix pour se prêter à l'exercice de l'imagination? Quoi de plus résistant, de plus contagieux qu'une image mentale? Une fois qu'elle a pris place dans l'esprit, il est presque impossible de s'en délester. Elle s'est déjà enracinée là, quelque part, comme une inception. Plantons quelques images. Imaginez une bibliothèque. L'atmosphère est sombre et poussiéreuse. Le silence ambiant et la lumière tamisée vous avez d'abord empêché de le repérer. Est-ce l'obscurité ou le contrefort d'ouvrage derrière lequel il est voûté? Vous pensez à un animal. C'est un doctorant. Vous vous aventurez un peu plus près. Doc a le teint gris, des valises sous les yeux et le cheveu sale de celui qui travaille avec acharnement. Vous pensez au personnage de Decaune. Le doctorant, naturellement, a des lunettes. Pas celles de la dernière marque coréenne plébiscitée par les hipsters branchés, non. Des lunettes fines et légères, fonctionnelles et pas chères. Vous pensez, ingénieur informaticien. Mais au smartphone high-tech, le doctorant préfère les liseuses compactes. Il privilégie un usage réaliste des choses. C'est un pragmatique. Il est fonctionnaliste. il peut parfois surprendre par les associations douteuses qui composent sa toilette. Chaussettes de sport et chemisettes, gilet sans manches et col roulé. Vous pensez qu'il lui manque quelque chose pour descendre les poubelles. Deuxième image. Imaginez un sourire aux dents jaunies par le café et les clopes fumées en attendant l'inspiration. Vous pensez à Tom Waits et Jim Jarmusch. C'est un artiste. Il est cool et détendu. Sa démarche nonchalante est d'une effrayante simplicité. Il pratique le coiffé décoiffé, travaille son naturel et maîtrise l'art de la tâche qu'il arbore toujours au bon endroit. Il connaît tout de la façon dont il faut assortir les loques onéreuses. Vous pensez au garçon sauvage. Il dispose d'un éventail de transgressions raffinées servant ses révoltes imaginales. Ses chaussures sont bigarrées par la peinture et usées sur les pavés des manifestations altermondialistes.
La chaleur de la ville était étouffante à mon arrivée à Santiago, alors que je n'étais pas retournée au Chili depuis près de 2 ans. Carnet de notes en main, je m'apprêtais à effectuer mon premier séjour de recherche en plein été, dans une capitale où les activités politiques étaient en hibernation. Imaginez un chercheur essayant d'enquêter sur les députés de l'Assemblée nationale française en plein mois d'août. C'était un peu moi. Pour moi qui préparais un mémoire sur le Parti socialiste chilien et ses relations avec le mouvement étudiant qui secouait le pays depuis quelques années, les enjeux étaient multiples. Au-delà de l'absence quasi totale d'activité politique dans les mois où je menais mon enquête, il s'agissait surtout de me constituer un réseau d'enquêtés au sein d'un milieu partisan pour lequel j'entretenais une longue admiration. Partageant l'idéalisme et les demandes des étudiants chiliens que j'observais depuis quelque temps, il m'a été plutôt aisé de réaliser de longs entretiens à leur côté. Ma connaissance de l'histoire du socialisme chilien, ainsi que ma profonde sympathie à l'égard du parti de Salvador Allende, m'ont également facilité l'accès à un terrain d'enquête a priori plutôt verrouillé. Le choix de me présenter comme une militante socialiste française participait pleinement de cette stratégie. Mais si l'histoire s'arrêtait là, cette chronique n'aurait probablement pas vu le jour.
Imaginez maintenant un croisement entre notre premier, brebis brillante mais galeuse, et notre second, gueule d'amour mais tire au flanc. Ce mutant, c'est l'artiste doctorant, funambule d'un jeu de tir à la corde. Imaginez sa liberté. Personne ne lui demande de choisir son camp. Il est relax à midi, angoissant à 15 heures. Il est gentil, maudit, plaintif, suffisant. Il se prend pour Baudelaire avant de se comparer à Sander. Il entend dépasser l'innocence présumée des apparences. Vaste programme. Vous pensez mort au con. N'empêche qu'il observe, étudie, scrute. Il porte son attention sur les objets les plus triviaux, les signes d'appartenance ou de contestation. Il décrypte le système a priori occulte de codes, de conventions et de règles inscrites à la surface des styles. Il vous scanne. Vous pensez qu'il sait. Il sait que plus de la moitié d'entre vous, à l'écoute de ce billet, a visualisé des caucasiens de sexe masculin, des hétérosexuels d'une trentaine d'années. C'est aussi ça son travail. Balzac disait « Il n'y a pas un seul de nos mouvements, ni une seule de nos actions qui ne soit un abîme où l'homme le plus sage ne puisse laisser sa raison, et qui ne puisse fournir au savant l'occasion de prendre sa toise et d'essayer à mesurer l'infini. » Quelle posture idyllique que celle de l'artiste doctorant, utopique, me direz-vous. Mais qu'en est-il du personnage double face quand il devient double tranchant? La liberté créatrice de l'artiste, qui moleste la morale, s'arrête-t-elle là où commence le travail du chercheur et son éthique? Comment mêler la subjectivité personnelle et singulière à l'objectivité de l'analyse sociologique? Faute de devoir choisir son camp, l'artiste doctorant doit choisir sa bataille et l'engagement qui est le sien. Vous pensez à Shining.
J'avais réussi le pari risqué d'accéder rapidement aux données de terrain, malgré la nonchalance estivale. Mais dès mon retour, je commençais à être tiraillée par des questionnements sur mes propres pratiques. Dans quelle mesure ma proximité idéologique, puis au fil du temps amicale avec mes enquêtés, pouvait-elle représenter des biais pour ma recherche? En participant à diverses activités des jeunesses socialistes, étais-je en seule situation d'observation? En m'engageant aux côtés des étudiants en faveur d'une réforme profonde du système éducatif chilien, me situais-je véritablement ou exclusivement dans des pratiques militantes? Ma rencontre avec Victor et l'entretien que j'ai réalisé avec lui illustrent à merveille la tension constante qui m'habite entre enquête et amitié, neutralité et engagement. L'entretien formel, qui se déroulait chez moi autour d'un pack de bières fraîches, n'a guère duré et a rapidement tourné à la discussion passionnée de celles au cours desquelles on aimerait refaire le monde. Je brisais dès lors, consciente mais inquiète, les grands principes de la recherche en sciences sociales, parmi lesquels la fameuse neutralité axiologique qui commande aux chercheurs de se distancer de ses enquêtés. Je jouais avec le feu, sans pour autant perdre de vue que ses relations tissées avec de jeunes Chiliens représentaient en fait un précieux sésame pour élargir mon réseau et mes connaissances sur place. Consciente de la pente glissante sur laquelle je me trouvais, je comprenais qu'une mise à distance était indispensable à une recherche de qualité. C'est alors dans le passage à l'écriture que moi, apprenti politiste, j'ai su renouer les liens avec ma discipline et prendre le recul nécessaire à toute analyse non militante des faits politiques. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Est-ce en écrivant que l'on devient chercheur ? C'est en tout cas pour moi le moment où la socialo-gaucho s'est distancée de ses idéaux pour entrer pleinement dans son enquête.
Le chercheur a de multiples casquettes. Il en change à l'envi selon les interactions sociales et les sphères dans lesquelles il évolue. Il est vigilant, il ne veut pas se perdre parmi ses identités multiples. Et si nous évoquions la question de l'engagement, c'est parce que ses recherches sont parfois au cœur du débat public.
Présentons le résultat de nos travaux lors des conférences, débats, colloques. Nous avons été interrogés à plusieurs reprises sur nos propres positions quant au fond des controverses étudiées. La nature polémique de nos sujets et la place de ceux-ci dans le débat social favorisent cette interpellation qui mêle posture du chercheur et implication individuelle.
Bonjour, je suis Anaïs et je travaille sur les représentations de la parenté chez les personnes conçues grâce à un don de gamètes, et plus particulièrement sur la question de l'interdit de l'inceste. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin.
Et bonjour, donc moi je suis en doctorat de chimie de l'environnement et je m'intéresse plus particulièrement à la pollution de l'air à Marseille. Alors, je sais pas toi Anaïs, mais il y a des phrases que j'entends souvent.
Ah mais alors c'est à cause de toi la circulation alternée?
Encore un con qui va nous dire qu'on n'a pas le droit de se chauffer?
Alors, ces phrases, on peut les entendre tous les jours. On peut en rire, on peut en pleurer. Mais moi, en fait, je les trouve tout particulièrement intéressantes. Parce qu'elles illustrent bien les controverses actuelles sur les sujets brûlants. On peut donc se poser la question de l'engagement du chercheur au sein de ces polémiques. Alors, quand j'entends ce genre de choses dans un contexte de circulation alternée, je me demande s'il faut tout dire de sa recherche. Mais surtout, comment on l'a dit. Si je prends mon cas particulier, mon travail consiste à transmettre des données sur la pollution de l'air au grand public. Mais le problème ici, ça serait de diffuser des informations qui peuvent être à la suite reprises ou même déformées. Et c'est là où est la difficulté de communiquer son travail de recherche. Car il faut que je fasse en sorte que mes données soient diffusées avec mon message et mon analyse. Ça serait un moyen d'éviter ce problème de désinformation qu'on retrouve à tous les coins de rue. Après, pour prendre un cas plus général, puisqu'on reste sur la circulation alternée, on sait que les politiciens nous bassinent avec des mesures contre le trafic routier pour baisser la pollution. Alors effectivement, c'est bien. Mais est-ce que c'est pas un peu détourné le problème? Dans le cas de la vallée de Chamonix en hiver, par exemple, et c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de grandes villes en France, la contribution du chauffage au bois à la pollution de l'air atteint 45 à 50%. Le trafic routier, quant à lui, il n'excède pas 15%. Et pourtant, des gens continuent à se mobiliser pour manifester contre les poids lourds, même si des chercheurs ont déjà prouvé cette contribution énorme du chauffage depuis maintenant bien des années. Ça montre qu'il est nécessaire de communiquer sa recherche, mais qu'on peut rencontrer parfois certains obstacles. Le chercheur est parfois confronté à des institutions politiques qui ne lui permettent pas de communiquer correctement son analyse. Et c'est là toute la délicatesse pour le chercheur de s'engager dans ce genre de débat.
Oui, moi aussi, il y a des phrases que j'entends souvent.
J'ai fait attention avec les journalistes.
Et alors, deux cousins qui se marient, inceste ou pas inceste?
Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler sur des sujets brûlants. Et en même temps, quelque part, c'est pas pour rien qu'on les choisit finalement. Dans mon travail, l'engagement il est à deux niveaux. D'abord, il y a la responsabilité que je prends auprès des participants à l'enquête. Ils me confient des expériences, des points de vue, et puis moi je m'engage à les respecter. Parfois, il y a des témoignages qui me touchent aussi, parce que c'est toujours une rencontre humaine. Alors à ce niveau-là, le débat politique il a une influence, parce qu'il forme une sorte de toile de fond qu'on doit prendre en compte. Pour mon enquête, une des solutions, c'est d'aller voir des acteurs, comme des associations, qui sont issus des différents pôles du débat. Alors il y a par exemple la question de l'anonymat des dons, qui a été un sujet brûlant ces dernières années. Moi, je le traite pas directement dans ma thèse, mais en même temps, je peux pas vraiment l'ignorer. Donc j'essaye de travailler avec des personnes qui sont plutôt pour la levée de l'anonymat et des personnes qui sont plutôt contre la levée de l'anonymat, pour essayer d'avoir tous les points de vue. Ensuite, le deuxième engagement que je prends, c'est d'essayer de rendre compte de la parole de la manière la plus directe possible. Alors bien sûr, je fais un travail d'analyse. Hein. Il s'agit pas seulement de livrer un verbatim brut, comme ça arrive parfois dans le journalisme politique, par exemple. C'est bien, mais c'est pas mon travail. Alors au niveau de l'écriture, ça peut vouloir dire, par exemple, citer souvent des extraits d'entretien. Parfois même un peu trop. Bon, il faut savoir doser. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est un aspect qui est très important pour moi de faire entendre des voix qu'on écoute un peu moins dans le débat public, voire parfois pas du tout. Et c'est probablement ce qui a le plus motivé le choix de m'engager dans la recherche universitaire. Le deuxième niveau d'engagement, c'est l'implication personnelle dans le débat public, justement, ce dont tu parlais. Quand mes amis m'interpellent sur certaines situations, parfois, ils attendent des réponses un peu plus définies que ce que je suis capable de fournir. Et c'est en lien avec ce que je disais juste avant. Je peux pas toujours répondre clairement ou rapidement, parce que les expériences humaines qui font le cœur de mon travail, elles sont complexes et donc difficilement réductibles. Je me vois mal réduire les heures de discussion que j'ai eues avec les participants à juste un oui, ou un non, ou un c'est comme ça, ou c'est pas comme ça.
Alors on le voit, la question de l'engagement personnel du chercheur est complexe et fait l'objet d'une réflexion constante, d'une construction progressive. Le travail qu'on a fait pour préparer cette chronique, ça en fait partie.
Ça nous suivra probablement toute notre carrière. En tout cas, c'est ce que suggèrent les remarques de Béatrice Fleury-Villatte et Jacques Walter, dont on citait un article de 2002 dans Questions de communication en début de chronique.
C'était une émission faite par des doctorants de Aix-Marseille Université et de l'OHSS. Vous avez écouté Luigia et Romain, Gabriele et Marc, Marion et Lila et Anaïs et Benjamin. Merci à Jean-Baptiste et Axel à la technique.
L'émission a été conçue sous la direction et la responsabilité de Jérôme Matteo, Philippe Hert et Nicolas Chevassus-Auluy.
Nous remercions la machine à café aussi.
Je ne me rappelle plus.
À quoi ça sert les sciences sociales?
C'est vraiment une science?
Oui. Ouais, on change les phrases, on change l'ordre, on change un peu tout.
Je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas d'autres questions.
Mais moi, j'en ai d'autres à noter.
Et du coup, on va t'appeler docteur après?